le 6-9 sur France Inter.
À 8h41, c'est Mathilde Romagnan qui nous rejoint pour la revue de presse. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
On a parlé cette semaine des incendies, l'un des signes du réchauffement climatique, mais il y a aussi la montée des mers et des océans, et c'est en une de La Croix aujourd'hui.
Quand la mer monte, c'est le titre de ce dossier de 10 pages qui va à la rencontre des Français du littoral. Pas de théorie, mais du concret à Biscarrosse et à Lacanau sur la côte atlantique, sur les bords de Quiberville et de Cherbourg en Normandie. Le quotidien interroge les habitants et les acteurs de ces littoraux menacés par l'érosion et la montée des eaux. On rappelle que selon le dernier rapport du GIEC, cette montée est désormais irréversible. À Biscarrosse, l'une des villas emblématiques de la côte landaise, les Embruns, c'est son nom, menace de s'effondrer. Construite dans les années 20, on la voit sur une photo qui donne le vertige, une mer agitée à seulement quelques mètres de ses murs. La question n'est pas de savoir si les bâtiments vont tomber. La question c'est quand, estime le géographe Vincent Baouédin, qui mesure l'écart entre le sable et la plage et les enrochements qui protègent le bâtiment. Ici, la côte recule en moyenne de 2 mètres par an. À Lacanau, la mairie va devoir relocaliser des bâtiments publics directement menacés par l'érosion, des parkings, le poste de secours et la maison de la glisse par exemple. Et dans le port de Cherbourg, on envisage au contraire des espaces submersibles plutôt que de lutter contre la montée des eaux, autant l'accepter. Sur le quai Lawton Collins, un architecte imagine un cordon dunaire qui laissera la mer monter sans impacter les habitations. Et La Croix de terminer son dossier sur cette affirmation. Il faut envisager de désurbaniser. C'est Emmanuel Garnier qui le dit. Il est historien des risques et du climat, directeur de recherche au CNRS. Continuer à urbaniser en espérant protéger par des digues, c'est une fuite en avant, dit-il, car la nature est toujours plus puissante.
Et on se rend à Hong Kong à présent avec le Figaro auprès des militants pro-démocratie.
Des militants qui doivent être discrets un an après la brutale reprise en main du territoire par Pékin. La mobilisation prend une autre forme. Elle se voit dans certains restaurants, commerces ou cafés. Ils font partie du cercle jaune et servent de lieu de rencontre pour les militants pro-démocratie. La lutte se poursuit sous le manteau, écrit le Figaro, qui nous fait découvrir la librairie Mount Zero dans un quartier populaire. Sur les étagères, le meilleur des mondes de Huxley, des ouvrages d'Anna Arendt ou de Vaclav Havel, mais surtout des rencontres avec des auteurs bannis dont les ouvrages ont été retirés des bibliothèques publiques. Depuis quelques temps, nous constatons que nos clients sont beaucoup plus intéressés par la politique, les questions de droits de l'homme ou les philosophies de la désobéissance civile. Selon Hélène Lai, l'une des 6 libraires du magasin. Le 4 juin dernier, les clients ont eu droit à des réductions pour commémorer le massacre de la place Tiananmen. Au-dessus de la porte, on peut lire « Les idées sont à l'épreuve des balles ». Une citation tirée de la bande dessinée V pour Vendetta.
Dans son édition du jour, l'équipe nous parle du retour des supporters dans les stades et des conséquences pour les joueurs.
Ouais, après une saison à huis clos, les footballeurs doivent se réhabituer aux acclamations, applaudissements, aux chants, aussi aux huées dans les stades. Du point de vue de la performance sportive, ça complique parfois les choses. Depuis le banc, le coach de Montpellier le reconnaît, je suis obligé de pousser un peu plus pour me faire entendre. Enfin, si je suis entendu, plaisante Olivier Dalloglio. Même constat côté joueur, on ne s'entend pas trop avec le bruit, admet Nathanaël Boukou, attaquant rémois. Malgré tout, joueurs, coach, arbitres sont unanimes. Le retour de l'ambiance dans les stades, ils aiment ça. Le directeur technique de l'arbitrage, Pascal Garibian, parle de la pression positive des supporters. Les joueurs ont besoin d'être poussés par une ambiance, les arbitres aussi.
Le Monde évoque lui ce matin le succès international des séries israéliennes.
Si je vous dis Betty Pool ou Atoufim, ça ne vous dit rien. En revanche, En Thérapie ou Homeland, là, ça vous parle forcément. Deux séries à succès, l'une est française, diffusée sur Arte, se passe dans le cabinet d'un psychiatre après les attentats du Bataclan. Et l'autre, elle est américaine, raconte la traque d'un agent de la CIA, d'un soldat pris en otage. Des années par Al-Qaïda, converti au terrorisme par ses geôliers pendant 8 saisons. Ces deux séries donc sont à l'origine israéliennes, des machines à clones selon Le Monde. Betty Pool, littéralement en traitement en hébreu, a eu droit à 18 remakes. Une série israélienne sur 4 serait soit adaptée, soit vendue à l'étranger, nous dit Le Quotidien. Comment l'expliquer? Il y a énormément d'auteurs en Israël, affirme Olivier Votling, directeur de la fiction sur Arte. Des auteurs de théâtre ou de romans qui ont une vision globale du monde, qu'ils vont poser, une qualité essentielle pour écrire une bonne série, dit-il. Des remakes en série qui ne sont pas vus vue d'un bon œil par Agaï Lévy, le créateur de Betty Pool. Faire des adaptations n'est jamais une bonne chose pour la culture, selon lui.
Dans Libération, une femme méconnue du grand public, mais qui a pourtant marqué l'histoire de la France, bien malgré elle.
Dans sa série de l'été, le quotidien dresse son portrait. Elle s'appelle Marguerite Steinheil. Elle a un lien avec Félix Faure, président de la Troisième République, le seul président décédé à l'Élysée. Bon, à savoir, ça fait toujours des points aux Triviales Poursuites. Marguerite Steinheil était sa maîtresse. Félix Faure est décédé d'un arrêt cardiaque à 58 ans et selon la légende, il était avec elle lors d'un rendez-vous galant. Son passage de vie à trépas se serait fait pendant une fellation, ce qui lui a donc valu à Marguerite Steinheil le surnom fort sympathique de pompe funèbre. Voilà pour la rumeur. Mais Libération revient sur les faits, car Marguerite Steinheil avait 30 ans en février 1899. Elle était l'épouse d'un peintre dont elle a eu une fille et elle qui aimait les mondanités. Elle faisait salon tous les jeudis dans leur villa dans le quartier de Vaugirard à Paris. On y recevait Toulouse-Lautrec, Charles Gounod, Émile Zola. Son idylle avec Félix Faure aurait commencé dans les Alpes, à Chamonix. Ironie de l'histoire, le soir de sa mort, le 16 février 1899, Marguerite Steinheil ne se sent pas bien. Elle décline l'invitation d'abord. Lui, il insiste. Elle se rend finalement à l'Élysée. Le président aurait avalé un aphrodisiaque dans l'après-midi. L'effet a eu sur son rythme cardiaque ne s'est pas fait attendre. À l'arrivée de sa maîtresse, il se sent mal. Elle doit donc fuir par l'escalier de service. Il décède finalement plus tard dans la soirée en présence de sa femme et de sa fille. Malgré un communiqué officiel de l'Élysée sur les circonstances de sa mort, les plaisanteries arrivent vite. Et avec elle, la célèbre phrase attribuée à Georges Clemenceau, « Il aurait voulu être César, il ne fut que Pompée ». 9 ans plus tard, Marguerite Steinheil fait encore parler d'elle pour une toute autre histoire. Elle est accusée d'avoir assassiné son mari et sa belle-mère, d'avoir mis en scène un cambriolage. À l'issue du procès, elle est finalement acquittée. Elle part vivre au Royaume-Uni avec sa fille. Elle y épouse un lord et elle meurt à 85 ans dans le Sussex, 55 ans après Félix Faure, conclut Libération.
Quelle histoire. Merci Mathilde Romagnan. C'était la revue de presse.